CV.
Sur la scène intermondiale.
CV avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
3, 2, 1. Bien le bonjour. Bon mercredi matin, 10h02, 10h03. On est un peu en retard, mais on passe à l'heure CV. Êtes-vous en forme? J'espère que oui. Le soleil viendra, je vous le promets. C'est ce qui est... Enfin, c'est promettre du soleil. Pascal. Je disais ça parce que je le vois là, dans ce qui nous attend pour l'après-midi, mais je retire mes paroles. Des promesses, c'est important. Et c'est très important de les tenir. Alors, aujourd'hui, peut-être du soleil en après-midi. Ça pourrait arriver. Aujourd'hui, sinon, c'est de la pluie depuis ce matin. Bienvenue dans l'heure CV. On est une heure ensemble. Oui, jusqu'à 11h, on s'accompagne. Je suis bien contente. Aujourd'hui, entre autres, on va aller rejoindre Jean-Michel Bertillon dans quelques minutes. On va parler de tout ce qui est fiction, mais basé sur des histoires vraies, basé sur des personnes qui ont existé. Puis là, je fais un petit lien avec une série super populaire en ce moment sur Netflix qui, malheureusement, pour elle, met en lumière une dame avec une drôle de façon d'agir. Donc, disons que ça, comme ça, d'après moi, vous l'avez peut-être écouté. Mais est-ce que Netflix a pris toutes les précautions pour cacher l'identité de cette femme-là? C'est là où on peut se poser des questions. Et peut-être que ça deviendra une problématique, ça, parce qu'il y a une femme qui a été retrouvée, elle a été invitée sur un talk show américain et elle dément absolument tout ce qui a été monté dans la série. Mais son visage est quand même maintenant associé à cette série-là, puis tout le monde a une critique à faire. Tout le monde trouve que c'est un petit peu intense là, comme façon de se comporter et psychotique, disons-le. Bienvenue dans votre émission d'une heure avant Marceau le midi. Comme je vous disais, côté météo, on attend peut-être du soleil cet après-midi en ce moment. Ce sont des averses, mais il va faire 21 degrés. Du moins, c'est le maximum qu'on pourrait atteindre aujourd'hui. On est à 14 en ce moment et c'est très nuageux sur Québec. Oui, et il y a une grande nouvelle qui vient de tomber au courant des dernières minutes. On attendait Justin Trudeau à Québec. Il est là et c'était pour... annoncer le rachat du pont de Québec. Du moins, Ottawa vient de décider pour nous qu'on va injecter 1 milliard $ pour entretenir le pont de Québec, ce qui est une très bonne nouvelle, en fait, pour nous. C'est beaucoup d'argent, par exemple. Ça pourrait faire réagir aujourd'hui. Mais c'est 1 milliard au cours des 25 prochaines années pour entretenir le pont de Québec. On reprend le pont de Québec des mains du Canadian National, le CN. C'est ce qu'a annoncé Justin Trudeau, notre premier ministre du Canada, ce matin. Donc, on va investir environ là, 40 millions $ par année pour un programme de réhabilitation au cours des 25 prochaines années. C'est important de faire ça. C'est des investissements qui vont permettre de prolonger la durée de vie utile du pont pour les décennies à venir quand même. Mais notamment, il y a une augmentation de la fréquence de remplacement des pièces qui est prévue là-dedans. Puis ce programme-là de réhabilitation, c'est drôle d'utiliser ça dans le contexte d'un pont. Ça comprend aussi un volet qu'on dit de contribution pour la peinture, l'esthétique. On veut que ce soit beau, vu que c'est une infrastructure historique. La semaine dernière, le ministre des Services publics et de l'approvisionnement, on en parle beaucoup moins qu'on en parlait il y a quelques années, de Jean-Yves Duclos. Il avait annoncé que 30 ans après avoir cédé au Canadien national, le pont, le gouvernement fédéral avait réussi à s'entendre avec l'entreprise ferroviaire pour reprendre le pont. Mais ça, là, ça fait 10 ans peut-être que je suis dans l'actualité vraiment temps plein. Puis ça a été là, un dossier épineux, difficile. Le CN ne voulait pas céder. À un moment donné, c'était trop cher. À un moment donné, ça n'avait pas de sens à quel prix on voulait l'acheter aussi. Donc, ça a été très ardu là, comme travail, je pense, au fédéral. Mais c'est un des deux liens, on sait, qui relie Lévis à Québec. Donc, il est important. En plus, avec toutes les réfifis, avec toutes les différences d'opinion par rapport à un troisième lien ici dans la grande région de Québec, puis j'englobe la Rive-Sud là-dedans. C'est pas demain la veille qu'on va avoir un troisième lien si jamais. Donc, au moins, on apprend qu'on l'entretient. Est-ce que ça veut dire qu'on entretient le pont de Québec et donc on va continuer avec une vision négative par rapport à un nouveau lien? Je sais pas. Est-ce une stratégie? Je sais pas. Chose certaine, cette annonce a été faite ce matin par le premier ministre du Canada en personne. Il y a le maire de Québec qui est là aussi. On dit qu'on veut assurer la pérennité du pont de Québec. En fait, tous les acteurs là, de la région et du Canada qui sont impliqués sont dans notre grande ville aujourd'hui. Ça a été construit en 1917 quand même, ce pont-là. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup d'investissements pour des travaux importants. On n'a pas travaillé tant que ça en amont sur le fait de préserver le dit pont. Ça, c'est problématique. On le dit tout le temps qu'il y a tellement de dossiers qu'on attend qu'on soit au bout avant de réussir à aller chercher chercher des enveloppes et à l'entretenir. Est-ce que ça va coûter 150 fois plus cher que ce que ça aurait coûté à travers les années pour l'entretenir? Peut-être, mais jamais ils vont nous sortir ces statistiques-là. Mais on a su là, qu'il y a 4 ans, on devait refaire la peinture et ça pouvait coûter 559 millions de dollars. Je ne sais pas si une entreprise de peinture qui aurait pu prendre ça pour moins cher. Mais le gouvernement fédéral a estimé qu'il fallait simplifier les choses et redonner aux gens de Québec le contrôle de cette infrastructure critique. Voilà les paroles de Jean-Yves Duclos. On en reparlera un peu plus tard dans le bloc nouvelles. Aujourd'hui, le proverbe du jour, mesdames et messieurs, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. On ne peut pas changer les choses. Puis hier, je voyais une genre de publication qui avait été faite sur Facebook par je ne sais pas qui. Et c'est il y a 2 bassins d'eau, puis il y a un bonhomme qui nage le plus qu'il peut là, à contre-courant dans le bassin d'eau, puis de l'autre côté, à droite, ben, il flotte. Et je veux dire, l'énergie dépensée à gauche, soit celui qui nage à contre-courant, là, contre les flots, et l'énergie non dépensée, mais plutôt appréciée à droite, en flottant, en prenant toute la houle qu'il faut prendre, mais avec une quiétude X puis un laisser-aller, ça semble beaucoup plus appréciable que le contraire. Disons-le. Faut juste se le rappeler, des fois. Faut juste se le rappeler. Et on part l'RCV. Comme à l'habitude, je vous dis, allez vous couler un bon café. C'est hors bleu et pas grand-chose. Puis on revient avec Jean-Michel Berthiaume, sémiologue. Je veux jaser, justement, des fameuses séries sur des personnes qui ont existé, mais qui démentent ce qui se trouve à l'intérieur de ces séries-là. Puis ces temps-ci, sur Netflix, il y en a une qui fait pas mal réagir. On va le rejoindre après Hors Bleu.
Hors Bleu. Pascal CV.
Allons, ayons confiance.
Boulevard. 102.1.
On est de retour à l'émission. Je regarde encore le point de presse en direct pour le Pont de Québec. Ouais, grosse annonce. Je viens d'en jaser. On reviendra à ça un petit peu plus tard. Mon Dieu, je me suis étouffée. Je m'excuse, je suis complètement seule. OK, on va le vivre ensemble, c'est parfait. William Trudel aussi, de Trudel Alliance, sera avec nous un peu plus tard. À l'émission, on va parler d'immobilier, puis aussi ce qui va arriver avec les galeries Charlebourg. La ville est en train de se revamper, puis ça, c'est un des acteurs principaux, en fait, de cette mise à niveau de la ville en immobilier, puis en structure, puis en commerce, Trudel Alliance. Alors, on va leur jaser un peu plus tard. Mais là, je suis vraiment contente de recevoir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu Jean-Michel Berthiaume, un sémiologue qu'on dit heureux du côté de l'UQAM, qui est en fin de session avec ses jeunes. C'est quoi un sémiologue? Bien, ça prend tout ce qui est culturel et ça l'analyse, mais avec un esprit approfondi quand même. Il est au bout du fil, vraiment content de le retrouver. Salut Jean-Michel Berthiaume.
Salut Pascal.
En forme?
Ah, ben oui, fin de session,
Fin de session, ça se termine bientôt. Puis après ça, tu vas pouvoir continuer de faire ton travail quand même parce que la période de l'été, elle est quand même assez fructueuse en culture. On attend aussi le nouveau film de Ricardo Troggi, 1995. La bande-annonce est sortie aujourd'hui. Il y a plein de choses intéressantes qui s'en viennent. Mais là, Jean-Michel, toi et moi, on jase depuis quelques jours de quelque chose qui nous fascine. Et c'est pas nécessairement la série en soi. C'est pas nécessairement Baby Reindeer qui attire notre attention, bien que ce soit assez fascinant là, comme série, parce que c'est basé sur ce qu'on pense une histoire vraie. C'est ce qui est décrit. C'est sur Netflix. C'est extrêmement populaire. Mais c'est ce qu'il y a en arrière. C'est tout ce qui est droit derrière d'utiliser l'histoire de quelqu'un, la vie de quelqu'un, et d'en faire du cinéma, d'en faire une série au profit, finalement, économique de la plateforme Netflix pour l'instant. C'est un peu ça qu'on va aller explorer ensemble. Est-ce que tu me permets de faire entendre la bande-annonce, d'abord et avant tout, pour ceux qui n'ont aucune idée de quelle série on parle?
Oui, je t'en prie, je t'en prie.
On lance ça.
Je sais vraiment pas comment ça va finir. J'ai l'impression que l'un de nous deux va devoir mourir.
Et vous dites que cette femme vous harcèle?
Ouais, depuis un bout de temps. 6 mois, peut-être.
Quoi, vous n'êtes pas venu le signaler plus tôt?
Elle a besoin d'un psy. Elle débarque à mon travail, elle se pointe chez moi, elle m'envoie des mails sans arrêt.
Elle a proféré des menaces contre vous?
Oui.
Je ne dirais pas que celui-ci est particulièrement menaçant.
Tu la supportes pour une bonne raison. Elle t'apporte quelque chose.
Tu sais que t'as des mains vachement masculines et une mâchoire saillante. Tu veux pas qu'on s'échappe quelque part? Alors t'es humoriste?
Si on veut.
Ça marche pas bien.
C'est une question ou...
Quelqu'un t'a fait souffrir, c'est ça? C'était qui?
Martha, tu peux me lâcher la main, s'il te plaît? Martha, lâche-moi!
Non, je suis pas d'accord!
On voit que c'est une relation qui est quand même assez particulière. Et on, dans la bande-annonce, on le met même basé sur une histoire vraie. Cette femme-là, Jean-Michel, a été retrouvée par des journalistes. C'est sûr que tout le monde voulait savoir c'est qui cette femme-là. Elle existe pour vrai. Alors, on veut un nom, on veut un visage sur elle. Et bon, dans les derniers jours, elle est apparue sur un plateau de télévision américain. Elle est allée au talk show de Piers Morgan jeudi dernier. Elle s'appelle Fiona Harvey. Elle dément absolument tout ce qui est là-dedans. Elle dit que c'est des mensonges. Donc, en bloc et accuse Richard Gadd, qui est l'homme en question dans la série, qui s'est senti un peu harcelé par cette femme-là et qui a décidé de vendre le concept à Netflix, d'avoir fait de l'argent sur elle, en plus sur des faussetés. C'est fascinant, le Jean-Michel Berthiaume.
Oui, puis c'est compliqué. C'est vraiment une situation hyper complexe parce que Richard Gadd, le personnage principal, l'acteur qui l'interprète, c'est aussi le scénariste, le scénariste de la télésérie, le scénariste de la pièce de théâtre originale. Lui, il a admis avoir utilisé sa vie personnelle dans des détails très, 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 très précis pour être capable d'écrire Baby Reindeer. Et pour sa part, en fait, l'adaptation théâtrale de son existence, il n'y a pas eu de problème. Il a vendu le produit. En fait, la pièce, elle a été présentée à Édimbourg. Édimbourg, c'est vraiment un lieu pendant le festival de théâtre amateur. C'est un lieu où est-ce qu'on ramasse beaucoup de projets en développement à l'international. Fait que lui, il ne voyait pas nécessairement de problème d'avoir mis autant de sa vie dedans. C'est juste que quand c'est arrivé à Netflix, Netflix n'a pas informé. Puis c'est vraiment là le nerf de la guerre. C'est que Fiona Harvey n'a jamais été informée qu'il y avait des séries qui étaient en développement, qui comportait des scènes de sa vie.
Donc, cette femme-là qui n'a jamais été contactée, qui a appris ça en même temps que tout le monde, finalement, sur Netflix, là.
Exactement. Puis elle a appris ça, évidemment, de la pire manière possible. Elle l'a appris via ce qu'on appelle tout le mouvement du doxing. Fait qu'en gros, qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est que les mystères en ligne, on le sait bien, ne restent pas des mystères très longtemps. Les gens ont une volonté d'aller fouiller, de faire un peu de travail de détective amateur. C'est que quand Richard Gadd a déclaré que c'était quelque chose qui était autobiographique, hein, ils ont immédiatement voulu savoir qui était la vraie Martha Scott, le personnage. Ça n'a pas été très, très long qu'ils l'ont trouvé. Et quand ils l'ont trouvé, ben, Netflix s'est défendu en disant « Nous, on a tout fait pour la cacher. On a tout fait pour occulter l'identité de la personne. » Sauf qu'au final, c'était pas tant vrai que ça.
Est-ce que, ouais, c'est ça, là. Ça, c'est, ouais. Ça a été tellement facile à retrouver. Fait qu'à un moment donné, on est capable de faire des corrélations. Mais au-delà de ça, moi, ce que je me demande, Jean-Michel, tu travailles là-dedans, tu travailles avec des jeunes, tu crées du cinéma, tu connais les conventions, tu connais le droit. Est-ce que toi, de ton œil, il y a eu des infractions? Est-ce que toi, de ton œil d'expert là-dedans, tu te dis, ben là, Netflix en met un peu là, parce que ça a été effectivement trop facile de retrouver la dame?
Tu mets directement le doigt dessus. Moi, c'est la première affaire qui m'a passé par la tête, c'est je ne peux absolument pas croire qu'est-ce qu'ils disent, parce qu'ils ont conservé, en fait, ils n'ont pas conservé, ils ont reproduit des tweets intacts du compte de pardonne-moi, Fiona Harvey. Fait que ils n'ont pas vraiment, même de chercher des tweets sur Internet, c'est assez simple, là, on peut les retaper texto, baiser enter, puis on va tomber sur le compte Twitter. Fait que c'est l'expression, ou du moins la défense, de dire qu'ils ont tout fait, elle est extrêmement mince. Je pense que Netflix, comme beaucoup de controverses, on pourrait dire, autour de cette compagnie-là, ont tourné les coins ronds, puis ont dit c'est pas si important, ou s'il y a une controverse, on est capable de la gérer, puis ils sont dedans.
C'est quoi les craintes qu'on peut avoir quand t'as une entreprise comme ça qui détourne un peu tout ce qui est normalement bien en place pour protéger, ben dans ce cas-ci, des gens de voir leur histoire ben, au grand jour, à l'international, et qu'on se fasse de l'argent sur notre dos, peu importe qui nous sommes dans la vie? Parce que je dois avouer que cette femme-là, dans la série, fait peur. C'est absolument traumatisant et troublant. Là. Oui. Est-ce que c'est absolument tout ce qui s'est passé dans la vraie vie? Je sais pas, LNI, il y a une série qui montre d'autres choses. Il y a des choses qui ont été reproduites de façon quand même assez véridique et réelle, basée sur bon, des vrais textos, entre autres, comme tu l'as dit. Mais pourquoi est-ce que Netflix peut s'en foutre comme ça? Pourquoi est-ce que Netflix n'a pas plus peur d'aller en cours ou encore d'être poursuivi?
C'est une super bonne question, parce que moi, j'ai l'impression, en regardant le modèle d'affaires de Netflix, c'est tout à leur avantage de faire profil bas. Il faut qu'ils fassent très attention par rapport à comment ils se comportent, parce que on le sait déjà que leur modèle d'affaires est, ça ne produit pas d'argent. En fait, on sait que Netflix, c'est une compagnie qui va qui va prendre des déficits tant aussi longtemps qu'ils n'auront pas mis tout le reste en faillite. C'est là où ils vont commencer à faire l'argent. C'est quand on va avoir étranglé la télévision. C'est quand on va se débarrasser des autres services de streaming. C'est seulement à ce moment-là que Netflix va commencer à faire du profit. Tant aussi longtemps que ça s'est pas arrivé, tout ce qu'ils sont capables de dire, c'est on a des immenses succès. On a des grandes téléséries que tout le monde écoute, notamment Baby Reindeer, qui disent que c'est leur plus gros succès de l'année, ainsi de suite. Mais à mon avis, ils devraient faire très attention par rapport à la controverse, parce que à chaque fois qu'il y en a une comme ça, qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est le gouvernement qui s'implique. Fait que là, dans le cas de Baby Reindeer, ce déboire-là a déjà emboîté le pas par rapport à qui s'appelle le UK Media Bill, qui appartient au Digital Culture, Media and Sports Department. Fait qu'il y a déjà, dans cette controverse-là, qui est très récente, là, le gouvernement est déjà en train de regarder sur, OK, on a laissé ça aller trop longtemps. Et là, en Angleterre, je dirais que ça va être une question de semaine avant qu'il y ait une loi concernant l'identification puis les droits de reproduction visuelle, les droits de visibilité, les droits d'identification, tout ça. Ils vont serrer la vis sur Netflix. C'est ça qui arrive, c'est qu'à chaque fois que Netflix a un déboire comme ça, la vis serre de plus en plus. Et là, les gouvernements qui, à cause des lobbyistes, ont laissé ces affaires-là laisser pendant un petit bout, ben là, ils se rendent compte que les gens ont peur. Les gens écoutent qu'est-ce qui se passe autour de Baby Reindeer, puis ils font, ça peut être n'importe qui. Fait que, s'il vous plaît, le gouvernement, faites quelque chose.
Oui, puis là.
C'est pour ça que je dis que Netflix, il faut qu'il se calme. Là.
Oui, parce qu'ils font tout en se disant, on sera sanctionné si jamais on a à se faire sanctionner et si les gens prennent ce qu'ils peuvent prendre justement contre nous pour justement nous punir de certaines actions. Dans ce cas-ci, il y a deux protagonistes. Il y a le protagoniste qui l'a vécu, puis il y a le protagoniste qui l'a aussi vécu, mais qui n'a jamais demandé à avoir son histoire sur une plateforme aussi populaire que Netflix. Peut-être en terminant, Jean-Michel Berthiaume, est-ce qu'elle pourrait s'en sortir avec une compensation monétaire intéressante? Est-ce que au dépens de Richard Gott là-dedans?
Oui, elle poursuit, là. C'est certain qu'elle va se mettre à poursuivre tout ce qu'elle est capable de poursuivre, que ce soit le créateur, que ce soit Netflix soi-même. Elle est entièrement dans son droit. Je veux dire, moi, je travaille à l'École des médias à l'UQAM et on est extrêmement craintifs en cinéma par rapport aux droits de reproduction, les droits d'usage des personnes, même dans une foule. Tu sais, fait que là, je peux juste imaginer pour quelqu'un qui a été non seulement portrait hors de son insu, sans sa connaissance, mais en plus, comme tu le mentionnais tantôt, c'est pas flatteur, là, son affaire.
Non, c'est pas flatteur du tout. Là.
De mort, puis ça va pas bien pour elle. Fait que je pense pas qu'il y a un jury qui va prendre le bord de Netflix.
Oh, mais ça va être intéressant à suivre. Pareil pour la suite, là. Ça peut être quand même énormément... ça peut être une somme là, quand même faramineuse qu'on va avoir à payer. Est-ce que ça pourrait mettre Netflix dans des déboires financiers? Peut-être aussi, là, mais chose certaine. Peut-être qu'on va poursuivre plusieurs personnes là-dedans, autant Netflix que celui qui l'a réalisé, qui l'a vécu en arrière, mais chose certaine. Fiona Harvey, qui est avocate écossaise, reçoit depuis Oui, c'est ça. Fait qu'elle connaît ses droits. Reçoit depuis le lancement de Mon Petit Reine en français. Beaucoup de menaces, d'insultes, tu le dis. Et elle nie tout. Elle nie absolument tout. Alors, on s'engage dans un genre d'histoire qui pourrait faire une suite à cette série-là. C'est ça qui est fascinant. Elle pourrait prendre sa revanche comme ça, là.
Oui, c'est vrai que c'est quand même une bonne proposition. Tu pourrais le proposer.
Oui.
Puis, vraiment, c'est biffe les noms, là. Change-les. Appelle les gens, Guy.
Oui, c'est ça. Tu poursuis Netflix, tu ramasses tout l'argent que tu peux. Tu poursuis cet homme-là, tu ramasses tout l'argent que tu peux. Et tu vends ton concept à Crave, finalement.
Ouais, on a des idées, là.
On a des idées. Merci beaucoup, Jean-Michel Berthiaume. Bonne fin de session du côté de l'UQAM, sémiologue qu'on adore à l'émission.
Merci beaucoup. Bye.
Bonne journée. Hey, ça me captive des histoires comme ça. Il y a toujours, au-delà de ce qu'on voit par rapport à Netflix, par rapport à notre divertissement principal, parce que quand on regarde une série, finalement, c'est pour se changer les idées un peu. Des fois, c'est pour apprendre, mais là, c'est pas un documentaire. Quoique, il est troublant, il nous fait vivre des émotions, mais c'est sur le dos de quelqu'un qui n'a jamais consenti. Bien sûr, là, à un moment donné, avec l'image qui est portée, bien que ce soit... peut-être l'image véridique de cette femme-là. Elle veut nier tout ça en bloc. Là, et c'est ce qu'elle a fait sur un plateau de télévision américain. Mais si ça vous arrivait, vous, que vous soyez du jour au lendemain victime, en fait, d'une plateforme comme ça qui exploite votre vie parce que vous avez bien des choses vécues ou des choses à dire ou que vous avez harcelé peut-être quelqu'un aussi. Ça ne vous intéresse pas nécessairement. Vous devenez l'harcelé au final. Ah! Oh, toute une histoire. Mais ça va être intéressant. C'est sûr que ça s'en va en cours. Puis moi, c'est malheureusement, peut-être que c'est encore le sens du spectacle sur le dos de quelqu'un, mais c'est quelque chose que j'aime suivre. Et vous? 88-971-1021. Passe-moi la POC, les colocs. De l'autre côté, William Trudel, Trudel Alliance, qui va venir jaser de ce qui va arriver avec les galeries de Charlebourg, mais j'ai aussi envie de lui parler de tous ses projets de construction. C'est comment ça va avec la Ville de Québec? Comment ça va essayer de développer Québec, justement? Est-ce qu'on a des contraintes, des bâtons dans les roues? Beaucoup de choses à aborder avec lui.
Avec Pascal Séry.
Vous avez réagi au dernier sujet. C'est sûr que ça nous prend de court un peu. On est comme divisé entre le fait de triper sur le voyeurisme en arrière d'une série comme ça, Mon petit reine sur Netflix, puis un peu dans l'inconfort de savoir qu'une femme qui en souffre, même si, bon, on pourrait évaluer qu'elle en a fait souffrir d'autres, là. Ça reste qu'on vient dans un malaise complet et total, en plus en apprenant qu'elle veut tout nier, ce qui lui est reproché dans la dite série, qui serait basée sur une histoire vraie. Mais vous trouvez ça bon, cette idée-là, de faire sa suite à elle sur une autre plateforme, ramasser tout l'argent qu'elle peut en cours pour ensuite vendre son concept sur une autre plateforme. Mais encore là, peut-être que ça pourrait se revirer contre elle. Hey, on a quelqu'un en studio que vous connaissez bien, un homme d'affaires très, très connu, disons-le, à Québec, qui a commencé sa carrière comme policier et qui l'a terminé, du moins, je pense que ça risque d'être son dernier travail. Ça sera à lui de nous le dire, comme investisseur, comme homme d'affaires. Et c'est William Trudel qui est avec nous. Salut, William Trudel.
Bonjour, Pascal. Ça va bien?
Ça va super bien, en forme?
Ben oui, T'as l'air en forme.
Encore des projets annoncés.
Oui.
Encore des choses dans l'actualité qui te concernent et qui concernent toute ton équipe. Je sais que vous travaillez fort en équipe là-dedans. Mais les Galeries Charlebourg, ça, c'est un de vos projets qui est évalué à près $1 milliard et ça prévoit 1500 logements. La première pelletée de terre est prévue en 2025. Tu y es arrivé finalement? Parce que ça n'a pas été de tout repos, là.
Ça n'a pas été de tout repos. Ça a été un petit peu plus long que prévu de développer le concept. Mais il faut dire là-dedans qu'on a eu une petite pandémie, comme tout le monde, là, qui nous a retardé un petit peu. Par contre, on y est arrivé. On est arrivé que... Pourquoi on parle de ça aujourd'hui dans plusieurs médias? C'est que hier soir, c'était la dernière étape officielle qui est requise par la loi, qui est une consultation publique qui est faite par la Ville de Québec envers les citoyens du secteur. Et nous,
c'est à savoir si on approuve ou pas, là, du projet?
Effectivement. Et nous, c'est sans surprise que les gens appuient massivement le projet parce que depuis des années... Mais je te dis sans surprise, Pascal, parce que depuis 3 années déjà, on a rencontré plus de 3 300 personnes, tous nos locataires, une quarantaine d'organismes communautaires,
vous aviez fait vos études, tous les comités de quartier.
Oui, donc, nous, quand on arrive à la consultation publique, c'est peut-être bien la 12e, 13e version du projet qu'on présente officiellement à la consultation. Et les autres versions précédentes, les commentaires des gens ont tous été pris en considération, les bonnes idées, les points améliorés.
Qu'est-ce qu'on vous demandait? Qu'est-ce qu'on vous disait au balbutiement de ce projet-là? Qu'est-ce qu'on souhaitait pour les Galeries de Charlebourg à Québec?
En fait, là, c'est que, tu sais, autant la première avenue, la deuxième avenue et même la quatrième avenue, parce que pour que tout le monde le replace bien, là, c'est Première Avenue 41e où il y a l'autoroute de la capitale ou le fameux McDonald's que tout le monde connaît qui est sur le coin de la rue, sur la propriété. Mais c'est que les avenues de Limoilou se butent aux Galeries Charlebourg et arrêtent dans les stationnements. Et ça, au niveau de la mobilité active, autant piétons, vélos, transports en commun que automobiles, c'était difficile pour les gens du secteur.
Parce qu'ils ne pouvaient pas passer par là.
C'était difficile, c'était pas facile, c'était aride. Et ça nous a été demandé d'améliorer ça. L'autre chose qui nous a été demandé... On sait que la friche en avant des Galeries Charlebourg sur la 41e rue, on se rappelle, il y a quelques années, il y avait des fils électriques d'Hydro-Québec, des lignes haute tension qui sont en train d'être enfouies présentement. Donc, cette friche-là va retomber disponible pour faire autre chose. Et les citoyens ont mentionné qu'ils aimeraient avoir des parcs, des jardins communautaires, et du verdissement et des zones d'agrément. Et nous appuyons tout à fait cette demande des citoyens. Et nous avons pensé tout le projet pour que notre propriété se connecte à cette nouvelle zone.
Donc, mais ça, c'est-tu vous qui allez s'occuper de ça ou c'est plutôt la facilité de le faire que vous allez donner à la Ville de Québec?
En fait, c'est que la Ville de Québec va faire sa partie dans cette friche-là, mais c'est que nous, tout le projet est développé en collaboration avec la Ville et les citoyens pour que ça soit tout un milieu intégré.
Fluide,
par exemple, que les feux de piétons soient prévus pour ça, que les pistes cyclables que la Ville de Québec est en train de faire sur la 4e avenue soient prévues pour ça, pour que si un jour, il y a un réseau de transport en commun X qui passe sur la 1e avenue, la propriété est prévue pour ça.
Ah oui, on t'a déjà demandé de peut-être prévoir ça.
En fait, c'est que nous, quand on change le zonage d'une propriété comme ça, on essaie de prévoir l'avenir pour des dizaines d'années d'avance. Parce que changer un zonage d'une grosse propriété comme ça, c'est pas quelque chose qu'on fait à tous les 6 mois. Donc, c'est sûr qu'on prend plusieurs hypothèses. Je vais te donner un exemple.
Des hypothèses.
Dans notre projet de Place Fleur de Lys,
oui.
Ben, on a pris l'hypothèse que peut-être qu'un jour, l'autoroute Laurentien va être transformée en boulevard urbain, ce que je ne sais pas s'il va arriver, mais je le souhaite. Ben, si ça arrive, le projet de Place Fleur de Lys est déjà tout prêt pour se connecter entre Vanier et Limoilou, et tout est prêt, tout
donc,
est passé en ce sens.
Donc, vos relations avec la Ville de Québec semblent être bonnes, là.
Chez Trudel, nous avons une équipe de relations gouvernementales à temps plein. On est une rare des compagnies privées là, qui a ça. Pourquoi?
Oui, parce que normalement, si tu as ça, c'est qu'il y a eu peut-être des complexités ou encore tu voulais t'inviter à certaines réunions de plus.
C'est que c'est tellement rendu des gros projets qu'on fait qu'il y a toujours une municipalité, un ministère provincial ou fédéral ou un organisme parapublic avec qui il faut qu'on parle, qu'on s'adresse, qui a quelque chose à dire, qui doit donner des niveaux d'autorisation, qu'on a des demandes à faire. Donc, nos relations sont bonnes avec tous les paliers de gouvernement. C'est sûr que c'est pas une surprise, là. Dans le passé, j'ai souvent mentionné que la coordination entre les 3 paliers de gouvernement devra être améliorée.
Je veux qu'on en parle, William. Je sais que tu en as déjà parlé, puis on a parlé ensemble à l'émission cet automne de mémoire. Mm-hmm. Mais ça, c'est un obstacle que bien des promoteurs, bien des hommes d'affaires, des femmes d'affaires côtoient dans leur projet d'investissement ou dans leur projet même pour revitaliser la ville. Il y a beaucoup de projets chez Trudel que c'est bon pour les citoyens. Là. Mais ça, c'est comment que ça enfante chienise, finalement, la vie d'un entrepreneur. Parce que faut que ça soit arrangé, il faut que ça soit mieux pour que, justement, en plus, avec la crise du logement, les gens en profitent des investissements puis des constructions de gens un peu allumés. Là.
La réponse directe à ta question, c'est sur cette échelle fictive, là, si elle existait, c'est très élevé que ça rend compliqué ma vie, notre vie comme entrepreneur. Puis ça rend tellement la vie compliquée qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une crise du logement à l'échelle du Canada, mais parlons de la région de Québec, là. C'est pire que pire. La SCHL, dans les dernières semaines, vient de mettre à jour les statistiques dans la région de Québec et le taux d'inoccupation des logements est sous la barre des 1 % alors qu'un marché équilibré va se retrouver à plutôt 4 %
Et qu'on aurait pu construire plus, là. C'est pas une histoire. Puis encore là, il aurait fallu construire plus de logements abordables. Ça, on est conscient.
Ça prend du logement abordable, ça prend du logement social, mais ça prend également du grand logement pour des familles, ça prend des logements plus luxueux pour des gens qui vendent leur maison, qui veulent plus d'entretien puis qui ont décidé de se payer une qualité de vie différente.
Puis ça,
il y a de la place pour tout ça.
Puis dans tes conversations avec d'autres hommes d'affaires ou encore au sein de ta propre équipe, William Trudel, est-ce que tu as cette conviction? Ben, toi, je sais que ça fait partie de tes projets, puis tu as un certain pourcentage de tes nouvelles constructions qui sont plus sociales, qui sont plus abordables, mais est-ce que c'est quelque chose qui est rentable pour un investisseur ou un promoteur immobilier en ce moment où l'argent mène le monde? Puis...
Ben, ça pourrait. Non, ça pourrait facilement, ça pourrait bien devenir rentable. Là, je vais dire quelque chose d'absurde, là. Si les gouvernements comprenaient ce qu'ils font, si les gouvernements, différents paliers gouvernements, travaillaient ensemble et comprendraient ce qu'ils font, il y aurait des types de produits immobiliers qu'on pourrait développer qui feraient qu'on pourrait devenir rentable. Je vais donner un exemple très, très simple.
Oui.
Nous, chez Trudel, à Fleur de Lys, présentement, on fait une phase de 480 logements. Dans quelques semaines, nous allons débuter une autre phase de 450 logements parce que la location à Fleur de Lys va très, très bien. OK? Mais si on veut faire du logement social, on doit isoler une partie du terrain et garder cette partie du terrain pour faire du logement social et les niveaux d'autorisation prennent des années de temps. Pourquoi que dans ma prochaine...
La ville avant qu'elle obtempère...
La ville qu'il faut qu'il parle au provincial, puis le provincial, il obtient l'argent du fédéral, puis le fédéral envoie l'argent au provincial, puis le provincial dit « t'as pas respecté mon champ de compétences, fait que c'est pas de même, ça va marcher. »
Puis le provincial, puis le municipal, en ce moment, il y a des rififi.
Fait que ça finit plus, OK? Pourquoi qu'on n'aurait pas le droit, mettons, dans notre prochaine phase sur 450 logements, je vais dire n'importe quel chiffre, là, 10 % 45 logements de logements sociaux subventionnés à même notre immeuble au lieu de se prendre une parcelle de terrain sur le site qui va prendre des années. Si on avait un programme simple, facile et rapide pour nous, on serait en mesure, nous, le privé, de produire ça beaucoup plus rapidement. Et si on avait le droit d'utiliser les subventions pour ces logements sociaux-là, pour les mettre dans notre montage financier autorisé par Desjardins et la SCHL pour le reste de l'immeuble, c'est comme si je vais le faire reconnaître en apport de capitaux et en mise de fonds. Mmh. C'est certain qu'économiquement, je vais faire ça comme homme d'affaires et les gens vont avoir le logement.
C'est bon pour toi, puis en même temps,
ça fait des années, Pascal, que j'essaie d'expliquer ça, mais je parle à des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font.
Pour eux, ce que tu racontes là, c'est pour utiliser la vieille expression, c'est du chinois?
Ben, c'est...
Ou c'est trop compliqué? Parce que là, de ce que j'entends, là, la parcelle de terrain qui pourrait être approuvée pour ces logements sociaux-là, ben, c'est long, on a compris dans les communications. Mais dans des deux projets, là, toi, que tu as déjà été approuvé, que tu t'en vas de l'avant dans tes deux portions de 400 logements, donc 800 au total, tu pourrais choisir en tant qu'homme d'affaires que l'étage 2 à 4, là, c'est des logements sociaux, puis je l'intègre à mon projet actuel, puis ça va amener une cohabitation entre diverses personnes de diverses classes sociales aussi.
Même que moi, là, j'irais plus loin que ça. Là, ça serait pas l'étage 2 à 4. Ça serait des logements saupoudrés équitablement dans tout l'immeuble pour être certain que ça soit très inclusif. Et la façon que les gens à faible revenu se retrouvent avec toutes les autres catégories de la société, ça décloisonne, ça l'évite de faire des ghettos. C'est une façon, c'est une mesure sociale d'inclusion et d'insertion.
Là, c'est le policier qui en a vu à Québec qui parle aussi.
Oui, j'en ai vu à Québec qui parle, puis on a souvent tendance... Des fois, les gens ont des mauvaises opinions des logements sociaux. Je suis allé dans de tels immeubles des centaines de fois dans ma vie. C'est rempli de bonnes personnes qui en arrachent, qui travaillent fort dans la vie.
Mais avec des valeurs.
Avec des très bonnes valeurs, puis qui sont des actifs pour la société. Mais, tu sais, c'est pas tout le monde qu'il faut soit neurochirurgien parce qu'on n'en a pas besoin d'un million de neurochirurgiens.
Non. Moi, je veux aller dans un restaurant rapide puis qu'il y a quelqu'un de le fun
bon,
qui me sert.
Quelqu'un qui travaille fort dans nos immeubles sur l'entretien ménager pour que quand vous visitez un immeuble de Trudel, c'est impeccable parce qu'on fait attention à la propriété. Mais cette personne-là ne peut pas se payer une maison à 500 000. Mais c'est une très bonne personne, un actif pour la société. C'est rempli de gens comme ça dans les logements sociaux de l'Office d'habitation municipale de Québec et autres à Québec. J'ai aucun préjugé par rapport à ça. Au contraire, j'ai un préjugé favorable. Mais le cadre réglementaire est tellement compliqué, c'est tellement un chemin de croix. Je dis souvent à la blague, c'est même plus une blague, je propose le modèle de développement économique basé sur les 12 travaux d'Astérix. Ça serait une nette amélioration.
J'ai une question qui vient d'entrer par texto, William Trudel. Je répète ton nom parce que c'est à toi qu'on parle en ce moment.
Oui.
Il y a quelqu'un qui demande... D'accord, mais qu'est-ce qui bloque pour pouvoir faire une intégration de ce genre de personnes-là dans les immeubles? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Pourquoi est-ce que c'est impossible? Ça semble pour moi, comme un des mortels, quelque chose de fort agréable à mettre en pratique dans notre beau Québec.
Le cadre réglementaire n'est pas prévu comme ça. Les lois et règlements sont pas prévus.
Il faut vraiment tirer à la base parce que nous autres, on n'est pas en immobilier.
Exact. Le cadre réglementaire ne prévoit pas bien ça présentement. Par exemple, si on veut faire du logement social, il faut qu'on fasse affaire avec un groupe d'intermédiaires spécialisés là-dedans, que c'est leur job d'envie de faire ça. Fait qu'eux autres, c'est sûr qu'ils ont plus ou moins d'appétit pour le modèle qu'on propose.
Okay.
Fait qu'en fait, je vais le résumer, c'est qu'il y a une façon de faire qui est de même depuis toujours, qui nous a amené dans le mur, dans une crise du logement, dans différents niveaux que l'on connaît actuellement. Il va falloir complètement repenser. Hier soir, j'ai eu l'occasion de m'entretenir directement avec le premier ministre Justin Trudeau, qui était à Québec.
Oui.
Il m'a demandé « qu'est-ce que tu me suggères de faire, William, pour aider pour la crise du logement? » J'ai dit « votre plan fédéral à plein de niveaux est déjà bien. Il y a des choses annoncées qui sont en bonne voie, mais la première chose va être une réforme complète et majeure en profondeur de la SCHL. La SCHL doit obtenir les fonds nécessaires pour accompagner les grands promoteurs comme nous pour augmenter la vélocité, doit avoir le personnel en grand nombre suffisant et doit avoir le niveau d'expertise. Et on doit donner la mission à la SCHL, non pas de protéger les intérêts des banques et du gouvernement tout le temps, mais d'accélérer le développement immobilier et d'augmenter la vélocité des grands groupes au Canada.
Ça a été quoi la réponse? J'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est ça a été quoi la réponse de Justin Trudeau?
Bien, c'est une discussion privée qu'on avait, donc je vais garder la réponse, mais je peux te dire, Pascal, que le premier ministre est tout à fait conscient de l'enjeu que je lui ai
exposé. Et le non-verbal de Justin Trudeau dans cette conversation?
Le non-verbal était dans le sens que, effectivement, je sais très bien que qu'est-ce que tu es en train de me dire, on a un gros travail à faire là-dedans.
Est-ce qu'il sent qu'ils ne sont pas compétents en ce moment?
Non, je dirais pas ça. En tout cas, moi, c'est pas le bref moment que j'ai eu avec lui qui m'a donné cette impression-là. Mais
je pense que tu veux pas affecter ta relation non plus en ayant.
Non, mais sérieusement, là, je pense pas nécessairement que c'est une question de compétence. Je pense que c'est une question qu'il y a beaucoup de choses qui marchent de même parce que ça marche de même depuis tout le temps.
Mais pour moi, ça, puis j'ai le goût là, de te challenger là-dessus. Là, pour moi, c'est un manque de compétence. Quand tu restes consciemment dans les mêmes bottines que tu as toujours eues, c'est sûr qu'à un moment donné, il va avoir un échec. C'est n'importe quel adulte qui continue de vieillir avec sa perception générationnelle, puis qui ne se remet pas en question, qui ne côtoie pas la jeunesse, qui ne côtoie pas des gens plus vieux que lui ou qu'elle, qui va rester dans un carcan, va rester dans une façon de voir les choses. La chambre d'écho, là, peu importe dans quel esprit on se trouve, dans quel débat on est en ce moment, William, elle est négative pour une société. Fait qu'on est encore là-dedans. En se disant qu'on fait toujours la même chose, dans les mêmes problèmes, dans les mêmes défis, bien finalement, on ne peut pas espérer un résultat différent. Puis on est arrivé dans une confrontation avec un mur devant nous, puis dans une crise qui est un peu insolvable en ce moment. Elle est difficile à résoudre parce que, bien, justement, les conventions, la façon de penser, puis la façon d'administrer un peu ces secteurs-là a toujours été la même. Puis de virer un paquebot, c'est difficile. Je comprends qu'on n'est pas en santé, mais ça reste que c'est une crise aussi qui nous amène dans d'autres secteurs, que ce soit l'éducation, la santé, des problématiques. Le fait de se loger en immigration, c'est extrêmement complexe en ce moment. C'est, je pense à Place aux jeunes, c'est niaiseux, on revient à la base. C'est un organisme, une organisation semi-gouvernementale à Québec qui essaie d'envoyer des jeunes en région pour s'assurer que toutes les régions se développent à leur plein potentiel puis qu'il y a du monde partout. Les jeunes veulent y aller, depuis la pandémie encore plus, mais ils n'ont pas de logement.
Ouais,
fait qu'on revient tout le temps à la base de ces choses-là. Si on ajoute des gens au fédéral pour gérer cette problématique-là, il faut s'assurer qu'ils soient compétents. Ça veut dire qu'il faut qu'ils parlent à des gens d'affaires comme toi, pas juste une fois de temps en temps.
C'est qu'on s'est retrouvé, mettons, avec la SCHL, qui est un acteur économique très important maintenant au Canada, surtout depuis la hausse des taux d'intérêt. Rapportons-nous, il y a quelques années, nous étions capables de faire parfois certains projets avec la SCHL, et maintenant, 100 projets avec la SCHL. Je parle des projets multirésidentiels, haute densité, de milliers d'unités. Qu'est-ce que ça change, la SCHL? C'est qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, la SCHL vient sécuriser une partie du risque de l'institution financière. Et avec ça, l'institution financière nous donne des meilleurs taux d'intérêt et un amortissement de l'immeuble plus long dans le temps. Donc, nous sommes capables de construire l'immeuble. En contrepartie, la SCHL dit, écoute, Trudel, j'enlève le risque à Desjardins pour Fleur-de-Lys en approuvant tes projets. Desjardins, tu vas faire des meilleures conditions financières à Trudel. Puis la SCHL vient dire, écoute, Trudel, au lieu de te mettre plus d'argent dans les poches, tu vas faire des catégories de logements abordables à 1 000 pour la clientèle qui en a besoin. Je trouve que c'est un super système et quand il est bien appliqué, il fonctionne bien. Mais le problème là-dedans, c'est qu'il faut augmenter la vélocité. Il faut augmenter la rapidité à laquelle le développeur va être capable d'avoir ses autorisations de la SCHL.
Le plus long délai que tu as eu?
Pour la première phase qu'on fait à Fleur-de-Lys présentement, ça a pris presque 11 mois. Il y avait une circonstance très particulière. Là. Maintenant, on est en quelques mois à la SCHL, mais il faut comprendre que la journée qu'on dépose un dossier au gouvernement fédéral pour que la SCHL assure le prêt et que Desjardins dise « d'accord, je vais décaisser », nous, ça fait 2, 3, puis 4 ans qu'on travaille sur ce dossier-là avant qu'il soit prêt pour dépôt. Il a fallu acheter la propriété, il a fallu consulter les gens, il a fallu changer le zonage, il a fallu faire tous nos plans de vie, faire toutes nos soumissions, aller chercher nos appels d'offres. Il a fallu aller chercher un prêt chez Desjardins. Puis dans la grosseur de projet qu'on est rendu, on parle de montants en milliards de dollars.
Oui, puis ça, c'est plus critique en ce moment aussi avec l'économie.
C'est
là.
Rendu trop gros pour une seule banque. Alors, il faut monter une association de syndicats de plusieurs banques qui fait nos projets. C'est très complexe, c'est long. Et puis, je pense vraiment qu'il va falloir revoir la façon de faire. Il y a un nouveau mot qui est arrivé dans le dictionnaire la semaine dernière qui est dégadine.
Je pense qu'on aurait tendance
à l'utiliser plus depuis qu'il est dans le dictionnaire.
En terminant, William Trudel, la Galerie de Charlebourg, ça se développe. Fleur-de-Lys, ça se développe. Mais ça ne se développe pas assez dans tout ce qui est administratif au niveau du logement. Peut-être un défi que tu souhaites lancer aux différents paliers gouvernementaux en ce moment?
Moi, je vous donne le défi de mettre une stratégie nationale pan-canadienne qui travaille avec les trois paliers de gouvernement en dedans de 3 mois. Je pense que ça se peut pas, qu'est-ce que je dis, mais si vous me demandez c'est quoi la solution, c'est que c'est ça.
L'espoir fait vivre. Hey, on se reparle bientôt.
Ça fait plaisir.
Une bonne journée. William Trudel de chez Trudel. Si vous voulez aller voir un peu leur projet, je pense que sur leur site web, c'est assez efficace. Il y a beaucoup de gens qui commentent « Moi, j'irais vivre dans ces logements à William Trudel. » Je trouve ça intéressant. Sa vision est intéressante. Puis j'aimerais ça qu'on se reparle bientôt pour aussi toute la vision d'un ex-policier par rapport à justement cette fluidité en différentes classes sociales qu'on pourrait retrouver dans différents quartiers de Québec.
Ça va me faire plaisir.
Si ça te tente, c'est une invitation. Beaucoup de gens qui disent « Moi, je suis prêt à réserver.
Si vous voulez réserver, on a vive à fleurdelys.com et là, maintenant, on a vive à LGC pour les galeries Charlebourg. .com aussi, mais de toute façon, sur le site trudel.ca, toutes les informations s'y retrouvent.
À vos claviers, mesdames et messieurs. Jérôme 50 à Boulevard 102.1 dans leur CV, les ramassés de canettes. On revient. Avec la consigne.
Leur CV avec Pascal CV.
Ce serait combien un loyer abordable pour vous? Là, on parle pas nécessairement de 500 $ pour un 3,5, 9 et tout, là. Quelque chose d'abordable et de rationnel dans votre position. 418-971-1021 ou encore sur Twitch. Je veux vraiment vous lire là-dessus. C'est sûr que je vais obliger Yannick Marceau à revenir là-dessus dans Marceau le midi qui commence dans un instant. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle qu'il y a 1 milliard de dollars sur 25 ans qui a été annoncé pour entretenir le pont de Québec. Québec qui a racheté, en fait, des mains du Canadien national. Ce dit pont, on veut bien l'entretenir. On le catégorise comme historique parce qu'il est historique. Et le gouvernement fédéral reprend des mains du CN. Ce dit pont de Québec, ça a été annoncé aujourd'hui. Dans la conférence de presse, il y avait le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, qui a précisé qu'Ottawa allait fournir 60 % du montant. Le reste va provenir du gouvernement du Québec à 25 % Et également, ce qu'on apprend, c'est qu'il y aura 15 % qui vont rester à payer pour les usagers de l'ouvrage. On en reparle. Restez là, à Boulevard 102.1.
Vous aimeriez obtenir votre